tous les premiers mardis de chaque mois.
Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les rendez-vous de la peste, l'émission de l'économie sociale et solidaire qui met en avant les activités et les acteurs, les actrices de l'ESS en Mayenne. Ce soir, on va parler du centre social. Voilà. Et qui mieux que les acteurs même qui gèrent ce type de structure d'en parler. J'ai autour de la table quatre invités. C'est la première fois où on a autant d'invités, mais puisque les activités et les projets des centres sociaux sont nombreux et nombreuses, du coup, je vais vous laisser vous présenter et puis on va démarrer petit à petit à lancer les échanges sur le centre social. On démarre par ma droite. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous présenter, dire qui vous êtes, votre fonction et quelle structure vous gérez.
Entendu. Donc moi je suis Christine Alopé, déléguée à la Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire et Mayenne, qui est composée de 44 centres sociaux et espaces de vie sociale adhérents, répartis sur les deux départements. Majoritairement, ils sont associatifs, okay. Mais nous en avons des à gestion publique.
On continue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc moi, je suis Didier Baudet, je suis bénévole à l'AMAV, l'AMAV étant l'Association Mayennaise pour l'accompagnement des gens du voyage. Donc je suis bénévole depuis 4 ans et je suis président de cette association depuis 2 ans. Sachant que dans une autre vie, j'ai été travailleur social dans l'éducation spécialisée. Et entre éducation spécialisée et éducation populaire, il y a un monde. Pour vous dire que moi, le centre social, c'est quelque chose que j'ai découvert en termes de titre il y a 4 ans. C'est assez nouveau pour moi, même s'il y a beaucoup de chemins qui se croisent avec l'éducation spécialisée.
On continue.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Christophe Doussin, directeur de l'association Les Possibles, qui est implantée à Mayenne.
Et fini avec
Laetitia Trippet, je suis salariée de la Fédération des centres sociaux et j'accompagne spécifiquement le réseau des Mayennais et je les soutiens et je crée les dynamiques.
Merci à toutes et à tous. Première question assez simple, c'est quoi un centre social? Et là, vous êtes quatre représentants des différentes structures. Enfin, j'aimerais bien avoir votre vision à chacun, chacune. Si vous voulez bien, je ne sais pas à qui.
Eh bien, moi, je vais bien commencer. Enfin, bien sûr, les collègues vont compléter. Parce qu'il y a une définition qui est relativement large, me semble-t-il. C'est déjà une structure qui est agréée par la Caisse d'allocation familiale au titre de l'animation de la vie sociale. Et en termes de finalité, je dirais qu'un centre social a une spécificité générique qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants d'un territoire défini, en contribuant à l'émancipation des habitants.
Les possibles, par exemple, être un centre social agréé par la CAF.
Tout à fait.
Quelles sont les activités des possibles?
Alors, chaque centre social a, je dirais, sa coloration, puisque la particularité d'un centre social, c'est vraiment de s'adapter aux problématiques, aux besoins sociaux d'un territoire et aux besoins des habitants qui le composent. Donc, je dirais qu'il y a plein de particularités en fonction de chaque territoire. En ce qui concerne le territoire de Mayenne, comme je le disais, on s'efforce d'être attentif au travers d'une veille sociale à mener des projets qui répondent au mieux aux besoins du territoire. Ça se traduit entre autres par un gros projet autour de la soutien à la fonction parentale, l'insertion sociale, une dynamique de soutien aux dynamiques locales, l'utilité sociale. Enfin voilà, il y a pléthore de champs sur lesquels on peut intervenir. Et une fois de plus, ça c'est la caractéristique des possibles. Mais si on regarde l'action par exemple proposée par la MAV, ça va être tout autre chose.
Donc du coup, Didier Baudet.
Alors on est au niveau de la MAV, oui. Le centre social se caractérise par le fait que les voyageurs, puisque ce sont les habitants, donc les voyageurs viennent au siège social à Saint-Berthevin, mais l'ensemble de l'équipe de la MAV, c'est-à-dire les professionnels et les bénévoles, vont aussi sur l'ensemble du territoire se déplacer sur les aires d'accueil. Donc en fait, il y a une entrée-sortie mutuelle des habitants et des professionnels et des bénévoles pour répondre à tous les besoins qu'a évoqué Christophe tout à l'heure.
Combien de salariés vous avez dans votre équipe?
Nous sommes 11 actuellement, plus une vingtaine de bénévoles.
Et chez Les Possibles?
Eh bien, 13 salariés. Et en termes de... Alors, les chiffres, ils sont assez récents. On a 235 bénévoles, ce qui caractérise 13 000 heures bénévoles à l'année. Et je tiens à souligner quand même, parce que quand je parle d'émancipation, l'émancipation, c'est aussi donner la capacité à des habitants de prendre des responsabilités associatives. Et le projet conduit et porté par l'association Les Possibles ne serait surtout pas ce qu'il est sans cet engagement massif et marqué des bénévoles aujourd'hui.
Pour compléter la définition du sens social, je regarde Laetitia. Est-ce que tu souhaites partager ta définition ou ta vision?
En fait, ce lieu, centre social, c'est un lieu où chaque habitant, quel qu'il soit, quel que soit son âge, peut être accueilli et peut trouver une place, prendre une place, créer une place dont il ressent le besoin. L'idée, c'est plutôt de faire collectif et d'arriver en disant, tiens, moi, j'ai ce problème-là, je vais rencontrer quelqu'un qui a le même problème ou qui a la même envie de créer un projet avec moi. Et il y a une équipe salariée qui soutient les initiatives des habitants, qui s'articule avec des bénévoles qui sont très impliqués dans les structures. Et puis, tout ça, ça fait vivre la vie locale qui correspond vraiment aux besoins du territoire.
Christine, je vous regarde. Est-ce qu'on parle depuis toujours de centre social ou historiquement, ce concept, je l'appelle comme ça, il a évolué?
En effet, au début, on appelait ça les résidences sociales. C'était des structures où on mettait en place des actions sociales, d'œuvres sociales pour améliorer les conditions de vie, notamment de la classe ouvrière. C'était la première cible de la population. Ça a été importé de l'Angleterre, en fait, à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait eu des expériences en Angleterre de centres sociaux. Et au début, ça s'est plutôt, on va dire, propagé, entre guillemets, au début du 20e siècle, en France, par des femmes bourgeoises catholiques, et qu'on créait des résidences sociales au cœur des quartiers populaires. Donc c'était une approche plutôt centrée sur la famille, justement, qui amènera après le fait que la CNAF, justement, attribue l'agrément aux centres sociaux, puisque ça contribue à sa politique familiale. Voilà, et on a une figure phare au niveau, nous, de la Fédération des centres sociaux, qui est Marie-Jeanne Basso, qui, elle, a créé d'ailleurs, a concouru en fait à la création de la Fédération des centres sociaux nationaux, qui est apparue en 1922.
Et depuis, il y a des fédérations, enfin plusieurs fédérations qui sont développées, créées sur chaque département, ou comment ils sont constitués ces fédérations-là?
Il y a des configurations différentes, puisque c'est vrai que majoritairement c'est par département, mais pour autant on en voit qu'ils sont multidépartementales, même si c'est pas le modèle du tout dominant, ou comme nous, bidépartementales. Il y a aussi des fédérations régionales, donc qui englobent des fédérations départementales. J'ai envie de faire un parallèle parce que autant en fait un centre social il naît normalement, je dis bien logiquement, de la volonté d'habitants de se regrouper et de développer un projet politique qui s'inscrit sur un territoire. De la même manière, une fédération naît de la volonté de ses adhérents, futurs adhérents, donc que sont les centres sociaux ou les espaces de vie sociale, à se fédérer ensemble parce qu'on pense qu'on est plus fort ensemble pour agir en vue de transformer des choses de la société qui pour le coup, nous dérangent au sens où on les trouve injustes socialement, où on veut renverser les mécanismes de domination, etc. quoi. Donc ça part toujours d'une volonté quand même collective. Quoi.
Puisque vous avez le micro, toujours, juste, on a compris un peu le rôle des centres sociaux. Quel est le rôle de la fédération?
Alors, il y a plusieurs fonctions socle, on va dire, pour une fédération. La première, c'est vraiment d'accompagner et de soutenir ses adhérents sur soit des problématiques, on va dire, techniques. Ça peut être de l'ordre du recrutement ou des crises RH, des crises financières ou même des contractualisations avec des collectivités, voilà, par exemple. Et aussi, comment on peut être ressource sur les enjeux sociétaux qui traversent ces structures-là. Donc je crois que, Christophe, tu as évoqué tout à l'heure le développement du pouvoir d'agir. Donc, on peut être ressource sur ça, sur les discriminations aussi, sur, on va dire, des enjeux sociétaux, on va être ressource. On peut développer de l'ingénierie autour de ça. Et puis, Et puis, parfois, on peut aussi porter directement des missions déléguées par des institutions ou porter des dispositifs. Donc, nous, c'est notre cas aujourd'hui avec Guidasso, voilà, par exemple, ou même la mission parentalité, mais là, qui est sur le 49.
J'ajouterais, Christine, qu'il y a quelque chose autour de la garantie du sens. C'est-à-dire que quand on propose une activité dans un centre social, bien sûr, on a envie de développer des techniques, par exemple du crochet, de réparer un vélo, etc. Mais de la question du sens, derrière nous, elle est importante. C'est-à-dire qu'on vise bien l'émancipation de chacun et on vise bien le fait de reconnaître la compétence de chaque personne, qui qu'elle soit, quel que soit son parcours. Et c'est bien cette question-là qui nous anime. Donc la garantie du sens, c'est aussi ce qu'on porte, nous, à la Fédération.
Laetitia, tu es animatrice du réseau des adhérents mahennais. Combien de centres sociaux existent aujourd'hui en Mayenne?
Alors, en Mayenne, on a 10 structures qui sont fédérées, donc qui adhèrent à la Fédération et qu'on soutient activement. Mais sinon, il y a 27 structures qui sont agréées par la CAF. Répartis partout sur le territoire. Il y a encore des territoires qui n'ont pas d'espace de vie sociale.
Il y a des zones blanches encore.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a encore des zones blanches.
Pour quelles raisons ?
Eh bien, parce que les initiatives, les collectifs se sont pas regroupés, en tout cas, et qu'ils ne bénéficient pas d'un agrément CAF.
Et je compléterais également, il y a au-delà d'un désir effectivement d'habitants de se mobiliser autour d'un projet de territoire, il y a aussi, il faut avoir me semble-t-il aussi un des feux verts allumés au niveau des politiques aussi. Il faut qu'il y a, enfin pour moi, c'est s'il n'y a pas un accompagnement des politiques, politiciens, j'entends, hein, ça peut être un frein effectivement.
Et puis ça veut, et puis l'idée, c'est pas non plus de dire qu'il y a rien du tout dans ce que nous on dit les zones blanches, celles où il n'y a pas de structure agréée CAF. Il se passe plein de choses partout sur les territoires. C'est juste cette énergie, cet agrément CAF qui a pas été sollicité. Et puis après, ça va faire.
Justement, j'aimerais comprendre en fait la plus-value de cet agrément. Pourquoi il y en a qui ont l'agrément et pourquoi il y en a qui ne l'ont pas du tout ? Est-ce que vous pouvez, au-delà du l'apport financier, quelle est la plus-value d'être agrémenté par la CAF ?
Alors déjà, moi, je distinguerais qu'il y a deux types d'agréments, enfin deux types de structures en déclinaison. Okay. Effectivement, on parle de centres sociaux, mais il y a également les espaces de vie sociale. Qui peut être un préalable. Alors, un espace de vie sociale, c'est un petit centre social, hein, je le dis avec mes mots, qui peut être un préalable, effectivement, pour un projet de territoire, avant de s'aventurer dans la grande aventure de ce qu'est un centre social, de prétendre peut-être de faire ses premiers pas au travers de ce premier agrément. La plus-value pour un territoire, c'est déjà d'identifier et de mettre en valeur des initiatives d'habitants. De mettre en synergie aussi des acteurs locaux, puisqu'un centre social n'œuvre pas seul, il œuvre aussi dans un contexte politique, enfin dans un contexte pardon géographique où il y a pléthore de partenaires. Moi, j'ai plaisir à dire souvent, même si c'est pas français, qu'un centre social est un assemblier de synergie avec des convergences communes où chacun garde son identité, son propre champ d'action, mais converge vers un mieux-être global de l'habitant.
Du coup, il y a espace de vie sociale, où là, c'est première étape.
Tout à fait. Ça peut être une première étape, effectivement.
En fait, c'est pas un ordre.
Ça peut.
C'est juste que les contraintes de l'agrément ne sont pas les mêmes.
Ok.
Donc c'est à chaque structure de choisir ce qu'elle souhaite déposer comme dossier. Et puis ça, c'est la CAF qui est maître de donner l'agrément ou pas.
Et la différence entre première étape et deuxième, moi, je vais... Ouais. Laisser un peu cette logique-là, pardon, peut-être je vais déformer un petit peu. C'est quoi les différents critères
En fait, ce qui se passe, c'est qu'un espace de vie sociale, il n'a pas de contraintes RH, on va dire, salariés.
Peut être porté que par des bénévoles, par exemple.
Bien sûr, une association de bénévoles peut solliciter un agrément espace de vie sociale, tout en ayant fait un travail de collaboration proche avec la CAF au moment du dépôt du dossier. Et l'espace de vie sociale, lui, il a une contrainte RH qui sollicite un minimum de 3 salariés. Un salarié qui porte la direction, un salarié qui s'occupe de tout le projet famille, ce que nous on dit les référents famille, et puis un salarié qui est responsable de l'accueil. En tout cas, ces trois salariés-là sont indispensables.
Par contre, il y a un socle commun qui est effectivement, pour justifier un agrément, il y a toute une phase de diagnostic qui est nécessaire au préalable d'une demande d'agrément, avec effectivement, après une traduction en objectif, en projet opérationnel, sur la base du diagnostic de territoire élaboré.
Avec un préalable de participation des habitants, qui est essentiel. Vous imaginez bien s'il n'y a que des salariés qui tiennent, qui établissent un planning et qui sont maîtres du jeu de tout, bah, il n'y a pas de place à la participation des habitants. Parce au sens émancipation, prise de responsabilité.
Et foyer d'initiative.
Foyer d'initiative.
Est-ce que les centres sociaux, est-ce que vous travaillez ensemble, les possibles avec la MAV par exemple, est-ce qu'il vous arrive de porter des, ou co-porter des projets ensemble?
Bah bingo, c'est la bonne question parce que oui, on a un partenariat qui est historique, vraiment historique, qui se traduit tout au long de l'année au travers des actions principalement en direction de l'enfance et de la jeunesse, où pendant les vacances scolaires et le mercredi on conduit des actions communes, et ça se ponctue en fait chaque année par un rendez-vous, un big rendez-vous sur l'aire d'accueil de Mayenne à la Davière, où l'ensemble des habitants de Mayenne sont invités et accueillis par les voyageurs au travers d'un temps festif qui est proposé. Et le prochain, ça sera le 13 juin. Mais effectivement, on est un peu des associations un peu sœurs, si je peux me permettre.
Vous souhaitez compléter, monsieur Vaudet?
Juste que l'association qui rencontre les possibles là, le 13 juin, c'est vraiment une réunion de mixité sociale. C'est très particulier à voir puisqu'il y a toutes sortes de populations autour d'un moment festif.
Quand vous dites toutes sortes de populations, qui exactement?
Alors ça c'est un petit peu mon défaut de l'éducation spécialisée avec mon prisme à moi, mais oui. Vous avez des gens qui sont dans la précarité, vous avez des voyageurs, vous avez des enseignants, enfin voilà, il y a toute la société réunie sur un tout petit morceau de terre. Et moi qui ai découvert ça il y a peu de temps, je trouve ça génial parce que ça se fait de manière naturelle, il n'y a jamais de soucis, et c'est vraiment tout le monde est dans la bienveillance et dans le festif, quoi.
Et si je peux compléter le propos, c'est même si l'aire d'accueil est ouverte, c'est une officialisation d'ouverture sur cette journée-là, effectivement. Et ça permet aussi, tu parlais de mixité, mais c'est aussi déstigmatiser aussi ce que peuvent être les voyageurs et leur notion d'accueil. Et effectivement, c'est un rendez-vous qui mobilise entre 300 et 400 personnes à chaque fois, pour ne citer que cet exemple. Hein.
Vous pouvez citer d'autres exemples pour mieux comprendre, en fait, le fonctionnement d'un centre social. Quel autre projet vous développez? J'essaie de concentrer un peu. Oui, Laetitia.
Moi, j'aimerais vous rajouter l'exemple d'Evron, oui. Par exemple, où on a deux adhérents qui travaillent bien ensemble.
Oui.
Le centre social du Trait d'Union, qui travaille avec la Corne d'Abondance. Les deux ont leur manière de travailler.
C'est quelle structure, Corne d'Abondance?
La Corne d'Abondance, c'est un espace de vie sociale.
Okay.
Qui accompagne des habitants, qui est basé dans la maison des associations à Évron. Et les deux travaillent ensemble sur soit des projets très spécifiques, par exemple, je pense à une quinzaine zen qu'ils ont mis en place ensemble, de manière à ce que les ponts se fassent mieux entre les structures et qu'on travaille cet aspect de déstigmatisation de chacun et de rencontre. Donc voilà, il y a des ponts qui se font entre les structures parce que c'est la même vision sociétale de mixité et de place de chacun qui sont au cœur des préoccupations de tout le monde.
Et si on doit compléter d'une mission complémentaire portée par la fédération, c'est de la mise en réseau également. Puisqu'effectivement, on est sur un territoire qui est très disparate. Pour autant, comme je le disais, chaque structure a sa propre particularité, et pour autant le fait d'être affilié à la Fédération des centres sociaux, ça permet aussi parfois de se rencontrer, de se retrouver sur des actions communes, comme je le disais avec la MAV tout à l'heure par rapport au projet qui nous anime, mais il y a d'autres structures qui peuvent trouver des ponts et œuvrer sur des projets communs également.
C'est-à-dire d'autres structures hors centres sociaux, hors réseau centres sociaux, j'imagine.
Et pas que, là je reste quand même sur l'approche des structures agréées, mais en fonction des territoires et des problématiques soulevées et portées par des structures, effectivement il y a des projets qui peuvent être coportés.
En fait, il y a tout ce qui est visible, des actions de terrain, la semaine zen, le grand barbecue de l'été, à Mavel est possible, etc. Et puis, il y a tout le lien qu'on ne voit pas, des présidents qui peuvent s'appeler, des directions qui peuvent s'appeler, des référents famille qui se rencontrent, les chargés d'accueil qui travaillent des thématiques communes, les animes jeunesse aussi qui vont prochainement se rencontrer. Parce que le développement du pouvoir d'agir de chacun, c'est bien le cœur de... C'est bien le cœur des préoccupations de toutes les structures et le point commun.
Ce que disait Christophe sur la mise en réseau, c'est ça, c'est que la fédération, elle a aussi, enfin l'équipe fédérale salariée, on va dire, elle a aussi comme rôle de pouvoir favoriser en fait les rencontres entre pairs, PAIRS, donc par corps de métier, on va dire. Voilà. Et donc il y a ça, donc ça peut faire émerger des projets, mais ça peut aussi permettre de développer la réflexivité sur ces pratiques en fait. Voilà. Moi, je voulais quand même reprendre un petit peu le début, puisqu'en fait, on a oublié de dire quand même que les centres sociaux, ils se placent dans le mouvement d'éducation populaire. Et un de nos fondamentaux, c'est bien de défendre des pratiques d'éducation populaire qui ont des visées politiques, en fait. Et c'est pour ça qu'on est dans des organisations et des mobilisations collectives, en fait, d'habitants, quoi. Et que la logique d'activité, de service, elle fait partie du projet social global. Mais lorsqu'on parle d'accueil inconditionnel et d'animation globale, c'est bien dans une démarche d'échange de savoir où chacun peut, a un savoir qu'il peut partager. Et ces espaces-là socialisent en fait les savoirs. Et dans une visée aussi, comme je disais, de politique, où ensemble, comment on va travailler une résistance aux mécanismes de domination, quoi. Et c'est en ça qu'on fait référence au développement du pouvoir d'agir.
Et je pense qu'il faut, forcément accorder le propos de Christine aussi à une société qui est en pleine mutation, qui met en avant effectivement des disparités d'accès entre habitants, où les plus opprimés, les plus défavorisés, effectivement, peuvent trouver au sein des centres sociaux une légitimité à se faire entendre. Une légitimité à entreprendre, une légitimité à faire, à se rendre lisible en tous les cas. Et effectivement, moi, j'identifie le centre social comme étant un transformateur de bonnes causes aussi. On est dans une complexité quand même de société aujourd'hui, enfin une société pardon qui se complexifie et où je trouve qu'on a tout le rôle d'un centre social aujourd'hui. Il prend tout son rôle et toute son essence et toute sa place. En donnant la possibilité à des habitants de trouver une place dans la société aujourd'hui.
Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. Vous avez choisi comme morceau la chanson de HK, On lâche rien.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. 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 On lâche rien, on lâche rien.
Les rendez-vous de la PES, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne. On va démarrer la deuxième partie de l'émission avec peut-être un focus plus sur la fédération, puisqu'on a compris comment les centres sociaux travaillent sur le territoire, avec les habitants. Les projets partent vraiment de la volonté des habitants pour développer des projets avec la structure qui est basée sur un territoire donné. Les fonctions de la fédération, j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus. Les fonctions de la fédération et la manière dont vous travaillez avec les centres sociaux. Comment ça se passe? Expliquez-nous, si vous voulez, Christine, je vous regarde.
Ok, donc je vais reprendre les fonctions d'une fédération, oui, qui sont les nôtres. Mmh. Après, chacun les occupe de manière différente en termes de temps. Et pareil en termes de volonté politique, puisqu'une fédération, notre fédération, pour revenir quand même, elle est composée d'un conseil d'administration. Donc on a un collège d'administrateurs bénévoles qui est le plus important, on a un collège de professionnels. Donc toutes ces personnes-là sont issues en fait des adhérents, des structures adhérentes. Et on a un collège aussi avec des référents des groupes ressources. Et ça, on y reviendra sur les groupes ressources au sein de la fédération. Mmh. Pour les fonctions fédérales, donc comme on a dit, on est une fédération quand on a un lieu ressources pour travailler sur des enjeux sociétaux, les accompagner. On est aussi, on a un rôle de promotion des centres sociaux, donc ça peut nous amener à travailler sur des plaidoyers. Récemment, début d'année, il y a eu un communiqué de réaliser avec les adhérents et avec des structures, avec des, même des mouvements d'éducation populaire concernant les jeunesses malmenées. En tout cas, c'est ce qui est vu et vécu d'ailleurs par des centres sociaux, et on peut voilà, un rôle de représentation de manière globale et d'alerte aussi au niveau des décideurs politiques. Et puis comme on l'avait dit tout à l'heure, on a un rôle d'animation de réseau, et ça je vais y revenir juste après, et garantie de sens, Laetitia l'a abordé, et de soutien et d'accompagnement des centres sociaux, on l'a évoqué tout à l'heure, sur soit des fonctions de pilotage ou autre. Par rapport à l'animation de réseau, la structuration en fait de la fédération, étant donné qu'on est sur des territoires quand même assez, assez grands, hein, géographiquement, pour réunir les adhérents, il a été décidé il y a quelques années de cela, de se réunir par zone géographique. Ce qui fait qu'on a des organisations qu'on appelle par site. Et bien souvent, c'est lié en effet à la géographie, quoi. Donc on va se retrouver avec le site Angevin, le site des Mauges, le site Mayennais, etc. Et là, c'est les professionnels ou les professionnels et administrateurs, selon pareil, la volonté des sites, parce qu'il y a une, ça part des sites, donc il y a une autogestion, ou alors ils peuvent aussi nous appeler et on co-anime avec eux. Parfois, moi, j'anime, en fait, je co-anime le site Angevin auprès des présidents et des directeurs chaque mois. Et là, en fait, c'est mon regard extérieur, c'est la fonction tiers, en fait, qu'on peut avoir d'être en lien avec les institutions de manière départementale qui peut intéresser les adhérents, par exemple. Mmh. De la même manière, Laetitia, elle est présente sur la réunion des directions, quoi.
Justement, Laetitia, on revient à ton rôle d'animatrice du réseau des centres sociaux mayennais.
Eh bien, moi, je dirais qu'elle se... Si je fais deux grands schémas, il y en a un qui représente de l'animation du collectif des adhérents, qui leur permet de se réunir, donc, soit par groupe de métiers, on va dire, soit par fonction de bénévolat. Voilà, ça peut arriver aussi. Donc là, ça permet de se connaître, d'échanger ensemble et de se rendre compte qu'à Cran, on a les mêmes problématiques qu'à Mayenne et qu'à Saint-Berthevin, c'est les mêmes choses qu'à Mélède-Humaine, par exemple.
Ça se fait mensuellement ou...
Ça, c'est le groupe qui décide. Donc souvent, c'est deux, trois fois par an, parce que l'idée, c'est que les structures, elles fonctionnent toujours, parce que quand on se réunit, il peut y avoir des temps de trajet. Donc ça, c'est le groupe qui décide au début des retrouvailles, se dire bah tiens, on se fait combien de fois par an. Ça, c'est, on va dire, l'animation des collectifs, faire du lien, que les personnes se connaissent mieux, et puis se mettre, enfin s'accorder, ou en tout cas se donner des trucs et astuces de déploiement de projet, ou de dire tiens, en ce moment on a telle démarche administrative à faire, on sait bien que tout le monde est en train de le faire. Donc c'est de faire collectif. Et puis il y a la deuxième partie de mon schéma, c'est de l'accompagnement plutôt individuel aux structures, soit parce que telle structure elle doit recruter un poste et qu'elle souhaite que la fédération soit là, soit parce que c'est des rencontres partenariales où ils ont envie d'avoir la fédération à leur côté, soit parce qu'ils sont en train de renouveler un projet social comme les possibles en ce moment et ils ont souhaité que la Fédé soit là. Voilà, donc ça c'est vraiment du sur-mesure, c'est aussi du temps d'intervention auprès des équipes salariées et bénévoles sur des thématiques, donc je vais vous parler participation et développement de pouvoir d'agir des personnes, ça vous serait pas étonné. Donc ça dépend, et ça peut être aussi faire tiers en disant tiens, aide-nous à réfléchir là-dessus, mais en fait comme je suis partie prenante de la chose, j'aimerais bien un animateur extérieur, est-ce que tu peux venir nous animer ce temps-là? Ça c'est possible, c'est du soutien aux fonctions de chacun, parce que c'est quand même intense le rythme dans les structures, et que des fois d'avoir un regard extérieur, ça permet de poser et de prendre de la distance. En fait, c'est du sur-mesure. Il y a du sur-mesure avec les structures et du collectif. Et puis, il y a du temps aussi. La troisième partie du schéma dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est le travail auprès des institutions, notamment la CAF, où on anime le réseau départemental aux côtés de la CAF sur l'animation de la vie sociale.
Et ça se passe comment?
Bien.
mais dans le sens des projets, vous développez des projets, c'est plutôt...
Non, l'idée c'est plutôt de transmettre de l'information dans ces temps-là.
Okay.
De l'actualité CAF et de l'actualité fédérale.
Okay.
Et puis de faire commun sur, sur le rythme de l'année et des projets, sur cette fameuse... thématique d'animation de la vie sociale globalement.
Je vais vous voir reprendre le...
Et de co-animer l'Observatoire des centres sociaux.
Ah oui.
Kessenax. Je me suis permise de reprendre le micro parce que nous, Laetitia a parlé d'intervention. En effet, en fait, on intervient auprès des bénévoles sur des thématiques de gouvernance, notamment, et aussi auprès des équipes sur le aller vers, qui est un de nos principes d'action.
Aller vers ?
Aller vers les habitants.
Okay.
Donc aller à la rencontre ou se laisser rencontrer en fait. Et c'est vraiment des démarches qui se déroulent sur l'espace public, mais ça peut être aussi du porte-à-porte. Il y a vraiment différents types de manières d'aller vers. Et ça, on accompagne aussi les équipes sur ça. Donc là, on a développé une ingénierie, notamment parce que l'on porte un espace de vie sociale itinérant en Maine-et-Loire.
Qui s'appelle
Pop Idée. Donc en fait, c'est un projet expérimental en vue de faire émerger une structure d'animation de la vie sociale sur des zones blanches. Donc c'est-à-dire que ça n'a pas une durée de vie infinie en fait. Une fois que le travail est fait sur un territoire, la Pop Idée part sur un nouveau et voilà. Et dans d'autres projets qu'on porte au niveau de la fédération, parce que nous on dit ce qu'on faisait, on a aussi des missions déléguées institutionnelles. Donc on anime le réseau parentalité sur le 49. C'est une mission que nous délègue la CAF Maine-et-Loire. Pardon, je vais m'écarter du 53, non, mais vu qu'on est bidépartemental. Oui. On anime aussi les médiateurs et les conseillers numériques au niveau du 49. Donc là, on appelle ça la MENNUM 49. Et donc les dispositifs guide asso, j'en ai parlé, c'est sur les deux départements. Donc à chaque fois qu'on anime ces réseaux-là, on va au-delà de notre communauté d'adhérents, bien entendu. Est-ce que j'en oublie
La co-animation de l'AVS en 50... Enfin, la... Oh pardon, plein de sigles.
Oui.
La co-animation de l'animation de la vie sociale avec la CAF.
Oui, ouais. Ça c'est de fait, puisqu'on est un partenaire, c'est notre premier partenaire public, la CAF.
Les possibles, la MAV, quel est votre regard par rapport au travail que vous menez avec la fédération? Est-ce que vous avez des partages, des compléments d'infos par rapport à ce que Christine et Laetitia viennent partager?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai découvert il y a peu de temps le centre social. Et quand j'ai ouvert les portes de la MAV, j'ai rapidement rencontré la fédération par le biais de Laetitia, notamment dans le cadre d'une formation sur le pouvoir d'agir. Là encore, ce terme m'était complètement inconnu, puisque moi, dans une autre vie, j'étais plutôt sur le pouvoir de réagir, puisque j'avais des populations qui subissaient, qui étaient victimes, sachant qu'on était dans un mandat, alors que là, on est plutôt sur de la libre adhésion, et que le pouvoir d'agir, c'est plutôt de la construction, de la co-construction. Donc moi j'ai appris tous ces termes, tout cet univers, toute cette symbolique, avec aussi quelques réticences au départ, hein, je l'avais bien avoué. Mais effectivement c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais en fait qui se complète avec tout ce que j'ai fait pendant plus de 40 ans. Donc c'est ça qui m'anime moi en tant que président à la MAV, c'est de compléter aussi mes compétences et mes techniques par rapport à des choses que j'ai expérimentées autrefois.
Didier, tu as participé aussi à une formation des présidents et administrateurs impliqués dans la gouvernance.
Tout à fait, sur Angers.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et bon, là aussi c'était intéressant. C'est-à-dire qu'à travers les centres sociaux, on rencontre beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, avant, j'ai rencontré beaucoup de partenaires, et là, on est plutôt sur des gens. Même si c'est des gens qui ont des missions, mais je les vois plutôt comme des gens, comme des habitants, en fait, qui ont aussi leur mission de bénévole, de président, etc. Et donc, des fois, on se découvre alors qu'on est sur le même territoire. Moi, j'ai rencontré les gens du CLEP, de plusieurs associations. Récemment, la Corne d'Abondance, c'est des associations que je ne connaissais que de nom. Et aujourd'hui, je sais comment ça se passe, comment ça s'anime et qui sont les gens derrière ça.
Christophe, tu souhaites compléter ou...
C'est le fait de mobiliser la fédération. Alors moi, tout récemment, j'ai complété le propos de Didier. On a pu mobiliser la fédération pour faire culture commune au niveau de l'équipe salariée autour du développement du pouvoir d'agir. Effectivement, la fédération nous a concocté et proposé 2 journées de formation, de sensibilisation, piqûre de rappel, formation, pour pouvoir se mettre un peu en distance par rapport à nos pratiques et puis faire sens commun autour d'une intention, effectivement. Et je souhaiterais évoquer ce volet-là parce que la participation des habitants, ça ne se décrète pas si soi-même, en qualité de professionnel, on n'est pas dans une démarche aussi de laisser la place aussi aux habitants et de ne pas être dans le tout savoir et dans le tout faire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je voudrais rebondir aussi sur une notion que Christine a évoquée tout à l'heure, sur le aller vers, le fait de sortir, d'aller sur l'espace public pour aller rencontrer des habitants. Je trouve que ça a vraiment tout son sens quand on sait qu'un centre social peut parfois être mal identifié ou estampillé, parfois à tort aussi. Et je m'aventure dans un terrain qui nous est fortement rapporté trop souvent, comme quoi les structures dites d'animation de vie sociale, un centre social... Et pour un public spécifiquement défavorisé, ce qui n'est pas le cas. Bien évidemment, on porte une attention particulière pour les publics les plus éloignés, les plus fragilisés, mais c'est une structure qui a vocation à prôner la mixité. Mais la mixité ne se décrète pas si effectivement on ne va pas sur l'espace public pour montrer qui on est, casser ces barrières que parfois un peu stigmatisantes qu'on veut bien nous donner. Et c'est effectivement, en tous les cas, nous les possibles, on s'efforce d'être le plus souvent possible sur l'espace public pour dire qu'effectivement un centre social c'est de l'activité, comme le disait Laetitia tout à l'heure. Pour tous les âges, pour toutes les générations, pour toutes les catégories sociales, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a une attention particulière pour les plus fragilisés, mais néanmoins, on prône la mixité.
Et du coup, ça va se manifester de plein de manières. C'est-à-dire que ça va être aller sur le marché avec un stand et du café, parce que vous verrez que le café, c'est quand même l'outil premier d'animation dans les centres sociaux, souvent. Ça va être organiser des guinguettes itinérantes l'été dans les villages, quand on est sur un territoire intercommunal. Ça va être aller dans les collèges, animer le débat et être en proximité avec les jeunes, les collégiens, lycéens. Ça peut être de plein de manières, organiser des randos, des sorties. En tout cas, l'aller vers, c'est une question de lieu, bien sûr, mais c'est une question de posture. C'est-à-dire, quand j'y vais, j'ai rien à te vendre. Je t'attire pas pour te vendre mon programme d'activité. Je te dis juste que le centre social est là et on se rencontre et c'est chouette, en fait.
Il y a la question de l'adhésion ou pas du tout, les personnes qui viennent vers vous?
Alors, pour ce qui concerne les possibles, hein, je prends que l'exemple des possibles, il y a un principe d'adhésion, effectivement, mais qui se veut être très symbolique, et en aucun cas, l'adhésion doit être un frein financier pour une famille qui serait vulnérable d'un point de vue financier. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, la quasi-totalité de nos actions sont gratuites. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. On maintient le principe de gratuité tant que c'est possible, parce qu'on ne va pas se mentir, on est ici dans un contexte financier où les associations sont quand même relativement mises à mal aujourd'hui. Et en ce qui concerne, je parle une fois de plus au nom des possibles, tant que ça nous est permis de maintenir cette adhésion quasi symbolique, puisque je crois que le tarif maximum, c'est 19 euros pour une famille à l'année. Et ça démarre à 4 euros. Donc, vous voyez, ça ne me semble pas être un frein. Et tant que ça nous est possible, effectivement, de maintenir une quasi-totalité de nos activités gratuites, on le fera. Mais toutefois, quand même, je le précise, on est quand même dans un contexte financier où les associations sont relativement mises à mal aujourd'hui. Et je tiens à souligner quand même que les associations, c'est quand même le premier employeur au niveau national. Et on joue un rôle. Comme je disais tout à l'heure dans mon précédent propos, dans un contexte de contexte sociétal qui se durcit fortement aujourd'hui, et une structure d'animation de la vie sociale, pas exclusivement comme les possibles, mais les structures d'animation sociale répondent vraiment à un besoin aujourd'hui.
En fait, le modèle dont vient vous parler Christophe, c'est le modèle des possibles, mais chaque structure est autonome dans le modèle qu'elle souhaite mettre en place d'adhésion. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir des adhérents, d'être adhérent à une structure pour bénéficier des propositions faites par la structure, mais chacun a son taux de cotisation d'adhésion. Voilà. Je pense qu'il y a des structures qui ont des adhésions gratuites, mais des activités payantes, et payant symbolique ou payant, de toute façon, c'est souvent symbolique par rapport au réel coût que ça coûte. Mais chacun est libre, c'est-à-dire que même, c'est une manière de vous dire aussi que la fédération, elle n'a pas de modèle à importer. Elle a donc 10 structures adhérentes en Mayenne, les 10 ont leur manière de fonctionner.
Et les 10 sont aussi leurs propres financeurs, ou il y a des financeurs
les structures, elles bénéficient d'un...
Les financements socle quand même sont la collectivité territoriale et la CAF.
Okay.
La CAF par la prestation sociale qui est délivrée suite à l'agrément, la collectivité territoriale parce que c'est quand même le premier partenaire sur le territoire qui va soutenir justement la structure d'animation de la vie sociale, quoi.
Et après, chaque structure, elle peut avoir des partenariats spécifiques. Je pense au conseil départemental, la CARSAT, la MSA, la conférence des financeurs, mais c'est le département. Enfin voilà, mais ça c'est
ça
à chaque structure d'être libre.
Ça dépend des projets développés par chaque centre social.
C'est vrai que je parlais de socle commun qui permet d'assurer un minimum le fonctionnement. Et après, il y a toute la logique de répondre à des appels à projets qui, du coup, créent beaucoup de surcharges administratives aussi des structures et qui ne leur garantit pas, en tout cas, de boucler leur budget. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que la fédération, ainsi, elle intervient sur la thématique jeunesse et notamment par le portage du dispositif service civique. Voilà. Puisqu'on est affilié à la Fédération nationale qui a un agrément. Et du coup, on bénéficie de cet agrément pour nos adhérents, quoi.
Une pause musicale, si ça vous dit. On va écouter un morceau choisi toujours par vous, la chanson d'Archimède, Le Bonheur.
Qu'importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important c'est ton bras, qu'importe si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur n'est-il pas ailleurs? Dans les seins qu'on pétrit, dans les contre-pétris, dans l'art d'être incompris. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse comment ça. sois pas ce footballeur qui palpe un million par mois. Tu roules en Porsche sur PS3, qu'importe. Si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi. Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs dans les seins qu'on pétrit, dans les cartes qu'on complie, dans les cartes qu'on déplie. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Tant qu'il est vrai que le bonheur est tolérant, qu'ils font du sous-croix d'eau à sur la plupart.
Les rendez-vous de la peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
On est dans le studio pour la dernière partie de l'émission. On va essayer de conclure un petit peu et vous questionner sur les perspectives. Laetitia, je te regarde parce que tu es l'animatrice du réseau Mayenne. On va parler des projets que vous préparez pour les mois à venir.
Ouais, le grand temps fort du réseau Mayennais, ça va être le FETOU 53, qu'on appelle comme ça, nous, qui permet à tous les bénévoles et tous les salariés du réseau des adhérents Mayennais de se retrouver autour d'une thématique commune sur, on va dire, une grande matinée, alors traditionnellement un samedi matin. Le dernier, il avait lieu, la thématique c'était « Cultivons le bénévolat ». On était 75 à réfléchir ensemble sur comment prendre soin du bénévolat, comment faire pour s'adapter aux futurs bénévoles, montrer que c'est possible d'être bénévole dans une structure, et puis d'avoir eu un peu de prise de recul. On avait notamment... j'ai oublié le nom.
Claude Guillaulier, du
voilà,
CAS.
Du CAS 53, qui est venu donner un peu de prise de hauteur sur le bénévolat en France pour casser les idées reçues aussi. Les jeunes sont vraiment bénévoles de plus en plus sur des missions ponctuelles, mais n'empêche que. Enfin voilà, réfléchir à cette notion du bénévolat. Le prochain FETOU 53, je ne peux pas vous donner la thématique parce qu'on le construit avec les adhérents. Donc il est en cours de construction et c'est trop tôt de vous en parler, mais en tout cas, ce sera en fin d'année, souvent en novembre, où on se retrouve tous.
D'autres projets.
Oui, on a la journée des directions le 25 septembre, si je ne me trompe pas, donc là qui rassemble les directeurs, les directeurs adjoints, enfin autrices, voilà, mayennais et du Maine-et-Loire. Et on a le 10 octobre, on va accueillir une conférence gesticulée, animation socioculturelle ou socio-consensuelle, c'est quand qu'on va où, avec Christophe Pruvot. Voilà.
À la fin de chaque émission... j'ai un petit exercice à vous proposer. Voilà, je vais vous donner des mots et vous allez me dire ce que ça représente pour vous. Ça peut être perso comme pro, mais j'ai repris quelques concepts voilà, que j'ai retrouvés dans le projet global d'un centre social de la Fédération. J'aimerais bien avoir votre avis. Après, si vous avez bien, si vous n'avez pas, vous êtes quatre, donc j'aurai quand même une réponse par mot.
Puis tu as remarqué qu'on était bavards.
Je compte bien, oui. Je pense qu'on aurait dû avoir deux heures d'émission pour parler de tout ce que vous faites. Ça a été assez, assez rapide et schématisé, mais je pense que les gens, ils ont compris votre rôle sur un territoire. Alors, premier mot que je vais vous donner, c'est l'accueil. Et je regarde M. Baudet.
L'accueil, pour moi, c'est le aller vers. C'est l'ouverture vers l'autre. Voilà. Et je pense que s'il n'y a pas d'accueil digne de ce nom, il n'y a rien après. Il n'y a pas d'accompagnement digne de ce nom.
Et c'est quoi pour vous, accueil digne de ce nom ?
Accueil digne de ce nom... moi, vous savez, j'ai fait un mémoire quand j'étais plus jeune sur l'accueil des trois premières minutes. Pourquoi ? Parce que dès qu'on rencontre quelqu'un, on a déjà en tête, il est bien ou il n'est pas bien ? Je vais aller vers lui ou pas ? Il est moche, il n'est pas moche ? Il y a toutes ces questions-là qui se posent en trois minutes. Et de là va partir cette dynamique d'accompagnement. Et si on n'a pas ça dans les centres sociaux, on passe à côté de la plaque.
D'autres réactions par rapport au terme accueil ?
Tout est dit.
Tout est dit, parfait. On continue, démocratie. Là, c'est un peu plus politique.
C'est donner la possibilité à chacun de prendre place dans une société qui serait plutôt avisée d'exclusion.
Et puis, je dirais que c'est un fondamental de nos structures, c'est-à-dire qu'on le vit déjà à nos petites échelles, pour l'expérimenter, bien voir que tout est faisable quand on respecte les principes de démocratie.
Et c'est une des valeurs déclinées par la Fédération des centres sociaux.
Oui, tout à fait. Merci Christophe, aux côtés de la dignité et de la solidarité, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de nos trois valeurs fondatrices quand même. Et la démocratie, c'est le débat et partage du pouvoir aussi.
Justement, j'ai fait quand même assez simple, donc j'ai repris vos valeurs. On continue avec la dignité humaine. Alors quand je vous ai dit que c'était un temps d'échange, dignité humaine.
Ah, je reprendrai le terme moi, d'un collectif qui s'appelle Unissons nos différences, et je pense que tout est résumé dans ce titre.
Discrimination.
Sacré chantier, moi, ce qui me vient comme mot. Malheureusement.
Ça fait référence à une journée qu'on a pu organiser avec la MAF, du reste, qu'on a co-organisée, qui s'est tenue en fin mars cette année, où on a pu amener ce concept de discrimination et au travers de toute une journée balisée entre conférences actives, ateliers, voilà, on a pu amener les participants à réfléchir à ce phénomène qui est de plus en plus prégnant dans notre société.
L'idée, c'était surtout d'apprendre à réagir face à des propos discriminants, déjà de les détecter, et puis de réagir en disant...
Et de réfléchir soi-même à ses propres postures.
Oui,
aussi.
Exactement.
Solidarité.
La solidarité, ça fait référence à l'entraide sans condition. C'est-à-dire toute personne doit pouvoir être aidée, soutenue, quelle que soit sa culture, sa religion, etc. Solidarité, c'est développer aussi une politique sociale qui permet réellement l'insertion de chaque individu, qu'il ait ses papiers ou pas. Voilà.
Et puis ça fait écho à la reconnaissance de l'utilité sociale de chacun. C'est-à-dire que tout le monde peut être utile à la société et au bien-être de tout le monde, en fait.
Et j'ai fini mon tour de mot. Hein. Vous avez vu, c'est assez simple. Cette année, notre structure AP53 fête ses 25 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 25 ans à venir, pour vous, centres sociaux, fédérations ?
Puisqu'on est dans les anniversaires, l'année prochaine, la MAF fêtera ses 60 ans. troisième trimestre 2026, et donc nous espérons un grand moment festif, puisque la MAV existe depuis 1966, avec la création de la première aire d'accueil sur le territoire national à Laval.
Et vous disiez que vous faites partie aussi du Fédération Nationale. Hein.
Oui, la FNASAT.
Et il y a combien de fédérations du coup ? Enfin, structures
Il y a une fédération nationale qui regroupe à peu près 85 associations de mémoire. Sur les gens du voyage.
Donc vous, l'anniversaire, et puis après, les 25 années à venir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Moi, je ne sais pas, si je suis encore président dans 25 ans, je viendrai en déambulateur, donc je ne peux pas vous dire de suite ce qu'on peut me souhaiter.
Pas à vous, mais à la structure, puisque vous représentez.
Alors, la structure, vu les compétences de la structure et de l'équipe et de sa direction, je pense que la MAV existera toujours dans 25 ans, ça c'est clair. Alors, c'est un message à la fois optimiste et pessimiste, parce que ça veut dire que dans 25 ans, il y aura toujours autant de discrimination auprès des voyageurs. Et ça, c'est pas terrible.
Moi, je dirais que pour les 25 ans, au niveau fédéral, et je regarde Christine et vous tous, c'est toujours plus de liens. C'est-à-dire que plein de ponts, les ponts officiels et les ponts non visibles. C'est-à-dire de plus en plus de liens, donc ça, c'est sûr, sur... oser s'appeler, se dire tiens, je t'ai croisé l'autre jour à tel endroit, je voulais te demander comment toi tu fais ça, etc. Ça, ce serait, c'est ce qu'il nous faut nous souhaiter, parce que quand on est, quand il y a du lien, c'est créateur de projets, créateur d'envie et de soutien. Donc en fait, de plus en plus de liens.
Que cette structure puisse, être continuée à être soutenue aussi par les pouvoirs publics, parce que le financement est quand même nécessaire, même si ça peut, on peut exister sans professionnels, mais on a, voilà. Parce que c'est quand même des lieux, comme on le disait, de démocratie, en fait, où on apprend en fait la démocratie, parce que la démocratie, elle peut se vivre de plein de manières. Donc, et des lieux d'accueil inconditionnel, et au regard des contextes aussi sociétal, français, hein, mais même international, où on voit beaucoup la montée du populisme et l'obscurantisme, il est vraiment important que ces lieux, justement, collectifs perdurent, quoi. Voilà.
Vous souhaitez, tu souhaites conclure, Christophe ?
Eh ben, pour être dans la même lignée de propos de Christine, alors c'est pas tant soi ce que je souhaite pour ma structure, même, je veux dire, bien évidemment que dans 25 ans, la structure Les Possibles, qui fête ses 50 ans cette année, hein, du reste ?
C'est l'anniversaire de tout le monde !
Exactement. Soit toujours une structure ouverte, accessible, identifiée pour l'ensemble de la population. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est plutôt un message assez fort en direction des habitants et de façon plus globale de la population. C'est une société plus juste et plus égalitaire.
Avec ça, je vous propose qu'on conclue notre émission. Donc, on s'arrête là. Merci d'être venu partager cette heure avec moi. Si vous avez d'autres actus, n'hésitez pas. Peut-être laisser les coordonnées de la FEDE ou même vos coordonnées respectives pour la MAV et Les Possibles.
Il y a le site internet qu'on peut aller voir et aller fouiller. Il y a plein de ressources dedans. Fédération Maine-et-Loire Mayenne, Centre, Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire Mayenne.
Ok.
Merci pour l'invitation.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir et au plaisir.
Merci.
Bonne soirée à nos auditeurs et à la prochaine. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.